30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec Anissa.
Ah bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Dans une poignée de secondes, votre grand journal, Pierre de Villeneuve se prépare, il est là. Et juste après, dès 13h, on fait bouger la France et on va s'intéresser ensemble aux motards. Vous allez voir que c'est un monde qui bouge beaucoup parce que les journées nationales de la moto et des motards ont lieu ce week-end et c'est un secteur qui fait sa révolution.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Emmanuel Macron au Sable d'Olonne, le chef de l'État a voulu témoigner de sa reconnaissance aux trois sauveteurs en mer morts la semaine dernière.
Et le premier geste d'Emmanuel Macron a été de rencontrer les familles. Hier, Édouard Philippe a indiqué vouloir réfléchir au modèle du sauvetage en mer qui repose beaucoup sur le bénévolat. Nous sommes au Sable d'Olonne dès le début de ce journal. À Lorient, le conducteur qui a fauché un petit garçon dimanche est toujours en fuite, mais sa passagère a été placée en garde à vue. Nous sommes à Lorient dans quelques minutes. Va-t-on payer moins d'impôts ? Oui, c'est confirmé. Édouard Philippe l'a précisé dans son discours de politique générale. 17 millions de foyers concernés ont fait le point dans cette édition. Dans ce journal également, la proposition de Nicole Belloubet de ne plus rendre responsables les enfants de moins de 13 ans. Un témoignage, celui d'une fille de curé, des enfants de prêtres entendus aujourd'hui par l'Église de France. Et puis la victoire des Bleus contre la Norvège, c'est pas rien. 2-1, ça prouve que nos joueuses tricolores savent aussi affronter des équipes difficiles. La météo, Elena Morna, cet après-midi, c'est mieux.
Oui, des températures en hausse et même si on n'y croit pas vraiment là en ce moment, les éclaircies vont progressivement revenir entre les Pays de la Loire, l'Île-de-France, la Champagne et les Ardennes. Toujours nuageux de la Bretagne au bord de Manche. Très beau sur le sud, très beau sur l'est, mais attention, la dégradation orageuse qui se profile sur le sud-ouest, eh bien, elle se profile et on va en entendre parler demain et après-demain.
Oui, on en entendra parler aussi tout à l'heure puisque vous revenez, météo complète, okay. Ce sera juste avant 13h.
Europe 1.
Emmanuel Macron est donc au Sable d'Olonne, sur les pas de François Mitterrand. Il a fait le déplacement pour rendre hommage, Pierre, aux sauveteurs en mer.
De la même façon qu'en 1986, l'ancien chef de l'État s'était déplacé dans le Finistère après la mort de 5 marins chevronnés de la SNSM. Emmanuel Macron s'est donc lui aussi déplacé pour montrer sa présence, celle de l'État, face à une réalité quotidienne, celle des sauveteurs en mer, la SNSM basée sur le volontariat. Vendredi dernier, 3 hommes ont péri en pleine tempête Miguel alors qu'ils tentaient de porter secours à un bateau en détresse. Emmanuel Macron a pris la parole il y a quelques minutes au Sable d'Olonne. Le chef de l'État se solennelle et grave.
Aujourd'hui, la nation pleure. La nation pleure trois de ses enfants, morts en héros, parce que leur engagement, le sens qu'ils avaient donné à leur existence, était de sauver la vie des autres. À Yann Chagnolo, Alain Guibert et Dimitri Moulic, en ce moment, c'est bien toute la nation qui reconnaît leurs mérites exceptionnels, qui distingue leur incroyable dévouement pour accomplir ce qu'ils considéraient comme leur devoir. C'est bien toute la nation qui s'incline devant la douleur digne de leur famille, leurs compagnes, leurs enfants, leurs parents et tous leurs proches. C'est bien toute la nation qui s'incline devant vous.
Emmanuel Macron au Sable d'Olonne, au micro de François Coulon, où vous vous trouvez. François, cérémonie qui a débuté tout à l'heure à 11h30, et le premier geste du président, le tout premier, ce qu'il a voulu faire, c'est de rencontrer les familles de ses marins.
Vous voyez, ça s'est passé dans l'intimité, dans le local de la SNSM des Sables d'Olonne. Un long échange de plus d'une demi-heure avec les familles des victimes et l'ensemble des sauveteurs de la station. Ensuite, Emmanuel Macron est arrivé ici au prieuré Saint-Nicolas, face à l'océan, où se trouve le mémorial des péris en mer. Près de 3000 personnes rassemblées pour cet hommage national. Dans la foule, l'immense famille de la SNSM, près de 700 gilets oranges endeuillés, venus de toute la France. Alors le chef de l'État a d'abord décoré de la Légion d'honneur les 4 sauveteurs en mer rescapés du naufrage, puis les 3 cercueils de Yann Chagnolo, Alain Guibert et Dimitri Moulic, portés par leurs collègues, ont fait leur entrée dans l'enceinte du prieuré. trois cercueils suivis par des membres des familles et des photos des défunts. Après son allocution, le président de la République a remis la Légion d'honneur à titre posthume aux trois disparus, a suivi un long moment de recueillement et d'émotion avant que la musique des équipages de la flotte interprète, vous l'entendez, la Marseillaise au pied du fort Saint-Nicolas sur le front de mer. Des dizaines de bateaux de la SNSM, mais aussi de pêche et de plaisance, vont faire retentir leurs cornes de brume. Tous les marins français étaient appelés à faire de même ce matin pour rendre sur l'eau un ultime hommage aux victimes du naufrage.
Merci François Coulon, en direct des Sables d'Olonne, en direct de cette cérémonie où vous avez en effet entendu la Marseillaise à l'instant devant le chef de l'État. Hommage national d'Emmanuel Macron.
L'actualité, Pierre, c'est aussi du côté de Lorient aujourd'hui, puisque la passagère de la voiture folle qui a fauché deux enfants dimanche dernier et tué l'un d'eux a été retrouvée.
Hélène Terzian, vous êtes à Lorient pour Europe 1 depuis l'accident dimanche et vous connaissez les circonstances dans lesquelles cette jeune femme de 21 ans a refait surface.
Eh bien, la passagère s'est présentée hier soir, peu avant minuit, chez un habitant de la commune de Caudan, à 10 km de Lorient, dans le but de se rendre. C'est cet habitant qui a prévenu la gendarmerie et c'est donc là qu'elle s'est laissée interpeller sans résistance. Placée en garde à vue, elle a été interrogée par les policiers au commissariat de Lorient. Une audition qui est centrale et qui va sans doute aider à resserrer l'étau autour du chauffard présumé responsable de l'accident. Il reste introuvable et toujours activement recherchée.
Et Hélène, vous qui êtes à Lorient, vous allez aussi assister cet après-midi à cette marche blanche qui va se tenir dans une heure maintenant.
Ah oui, pour rendre hommage aux deux enfants fauchés dimanche, le petit Bouniamine, 9 ans, mort dans l'accident, et son petit cousin de 7 ans, grièvement blessé et toujours hospitalisé à Brest. Un rassemblement à l'initiative d'une habitante, Véronique Samuel. Elle tient d'ailleurs à adresser un message aux fuyards.
Regarde ce qui s'est passé, ce que tu as fait. Le monde qui soutient cette famille, les hommages, il y a la colère. Un minimum de respect pour la famille, que les histoires s'apaisent. Et rends-toi.
Le parcours de la marche est symbolique. Il s'élancera près du centre culturel turc, empruntera la route utilisée par la voiture meurtrière pour s'achever sur le lieu de l'accident, aujourd'hui recouvert de fleurs.
Merci Hélène Terzian, en direct de Lorient pour Europe 1. Et le procureur de la République fera un point presse tout à l'heure en fin d'après-midi sur la suite de l'enquête. Un an et demi après le drame de Mias, qui avait tué 6 collégiens, avait fait 17 blessés, les familles des victimes sont reçues aujourd'hui par le juge d'instruction. Depuis cet accident de car scolaire sur un passage à niveau, la conductrice du bus a été mise en examen pour homicide involontaire. D'après un dernier rapport du bureau enquête accident, elle n'a probablement pas perçu que le passage à niveau était fermé. Pour l'avocate des victimes, il faut aussi que le médecin qui a prescrit le traitement médical à cette conductrice soit lui aussi mis en examen.
Il est 12h37, vous écoutez Europe 1, la suite du journal. Pierre de Villeneau, Raphaël Duchemin. Édouard Philippe a donc détaillé, Pierre, les contours de l'acte 2 du quinquennat Macron. C'était hier devant l'Assemblée nationale.
Et le Premier ministre a insisté sur l'urgence de réformer sur tout autant de sujets que sont les retraites, l'assurance chômage ou encore la PMA pour toutes. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Du service économie d'Europe 1, il y a surtout eu cette annonce sur les impôts, confirmation, 17 millions de foyers paieront moins d'impôts l'an prochain, comment ça va se passer?
Alors, si vous payez aujourd'hui l'impôt sur le revenu, vous avez de grandes chances de le voir baisser à partir de janvier prochain. Les seuls qui ne sont pas concernés sont ceux qui gagnent environ plus de 6 000 euros par mois. Pour un célibataire, ça représente 300 000 foyers. Pour les autres, il y aura donc une baisse, mais elle sera plus importante pour ceux qui se situent dans la première tranche de l'impôt sur le revenu, soit en dessous de 2 000 euros par mois. Si vous êtes concerné, le gain moyen sera de 350 euros par an. Je vous donne un exemple. Un célibataire qui gagne 2000 euros par mois verra ses impôts baisser de 541 euros par an, soit une réduction de 30%. Ce sera moins visible en revanche pour celui qui touche 1500 euros par mois. Lui verra ses impôts diminuer de 39 euros. À noter que l'effet des baisses d'impôts sera atténué pour ceux qui gagnent entre 2100 et 6000 euros mensuels. Là, le gain ne pourra pas dépasser les 125 euros pour un célibataire.
Anne-Laure, sur les retraites, cette fois, le chef du gouvernement a aussi fait le point. C'était nécessaire, hein, après toutes les tergiversations qu'il y a eu à ce sujet.
Oui, alors il reste encore quelques réponses en suspens, mais l'âge légal de départ à la retraite ne bouge pas. Ce sera 62 ans et à côté, il y aura un âge d'équilibre qui sera, lui, plus élevé. 64, 65 ans, le gouvernement se garde bien pour l'instant de lâcher un chiffre. L'idée en tout cas, c'est d'identifier l'âge à partir duquel ça ne grèvera pas l'équilibre du régime des retraites. Et ceux qui partiront à ce moment-là se verront avantagés. En clair, leur pension sera majorée. Y aura-t-il, à l'inverse, une décote pour les salariés qui partiront à 62 ans ? Pas de réponse pour l'instant.
Merci. Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Il y a 24 heures après cette déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, largement approuvée, hein, c'était au tour des sénateurs ce matin. Aurélie Herbemont, vous êtes au Sénat. Bis repetita donc.
Oui, sauf qu'entre l'Assemblée et le Sénat, c'est deux salles, deux ambiances, Pierre. Ici, les marcheurs sont minoritaires, la droite est majoritaire. Résultat, 71 voix pour, 93 voix contre, et c'est l'abstention qui a largement gagné, 181 abstentions. Édouard Philippe le savait avant de venir, il n'obtiendrait pas la confiance.
Je ne vous demande ni un blanc-seing pour la politique de mon gouvernement, ni évidemment un quelconque ralliement à la majorité. Je vous demande de dépasser des clivages et des différences que je respecte, mais qui ne me semblent plus aujourd'hui les plus importants.
Alors, les sénatrices ont opté pour l'abstention bienveillante avec une partie de vote pour. Côté LR, eh bien, on a flairé le piège et le risque de voir l'unité du groupe fracturée entre vote contre et abstention, alors que la réforme des retraites, de l'assurance chômage ou le débat annuel sur l'immigration plaisent à beaucoup de sénateurs LR. Consigne a donc été passée par Bruno Retailleau de s'abstenir massivement pour faire bloc. Dominique Estrosi Sassone, vice-présidente du groupe.
Nous avons été trop habitués à ce décalage entre des mots forts et des actes faibles. Autrement dit, cette abstention, c'est tout sauf un chèque en blanc. Nous jugerons sur pièce, texte par texte. Ni opposition systématique, ni adhésion automatique.
Voilà, des abstentions, c'est évidemment mieux que des votes contre. C'est pas mal, se réjouit un ministre issu de la droite, car dit-il, ça prouve que la poutre travaille encore.
Merci Aurélie, on n'en finit pas de cette poutre.
Eh non, elle est toujours là.
Aurélie, en direct du Sénat pour Europe 1.
Il est 12h40.
Europe 1.
Vous restez avec nous et dans un instant sur Europe 1, Nicole Belloubet qui veut établir un seuil d'irresponsabilité pénale fixé à l'âge de 13 ans. A tout de suite.
Il est 12h43 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
C'est ce qui s'appelle, Pierre, une annonce forte et elle fait déjà polémique. Nicole Belloubet veut établir un seuil d'irresponsabilité pénale à 13 ans.
Oui, la garde des Sceaux, qui a engagé une réforme de la justice pour les mineurs, propose en effet de ne plus poursuivre les délinquants de moins de 13 ans en instaurant une présomption d'irresponsabilité. Voilà ce qu'elle dit ce matin dans les colonnes du journal La Croix. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Pierre de Cossette ?
Alors, ça signifie que par principe, en dessous sous 13 ans, un garçon ou une fille n'est pas responsable pénalement de ses actes. Alors vous le disiez, annonce polémique, Valérie Pécresse parle de décision gravissime, mais en réalité, cette petite révolution dans l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs est plus subtile que ça. C'est pas aussi catégorique, c'est surtout du symbole. Ça permet de s'aligner sur les conventions internationales qui prévoient qu'on fixe un âge. Or, en France, on n'a jamais parlé de responsabilité pour les enfants, mais de capacité de discernement. En Écosse, par exemple, la responsabilité commence à 8 ans, en Suisse à 10 ans, en Belgique à 12, en Espagne à 14, et donc en France. Fin septembre, dans l'ordonnance que va rédiger Nicole Belloubet, il sera écrit qu'en dessous de 13 ans, il y a une présomption, et j'insiste là-dessus, une présomption d'irresponsabilité. Mais en réalité, ce sera au juge et au cas par cas de se faire un avis. Pas trop de rigidité, précise Nicole Belloubet. Ce qui n'empêchera pas, comme ça se fait aujourd'hui, des mesures éducatives et des indemnisations au civil pour les victimes. Actuellement, chaque année, environ 2000 jeunes de moins de 13 ans font l'objet de poursuites chaque année. Et cette nouvelle mesure semble moins faire polémique chez les professionnels que chez la que chez les politiques.
Oui, et en effet, vous citiez Valérie Pécresse qui dit « c'est irresponsable pour ses enfants, on est en train de les livrer aux prédateurs que sont les caïds ». Elle avertit que les plus grands vont pervertir les enfants pour faire le sale boulot. Voilà ce que dit Valérie Pécresse. Et l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, dit « ce qui est fait là va à l'encontre de la réalité du terrain ». C'est de l'impunité pour les mineurs délinquants. Fin de citation. La Belgique, elle va rapatrier 6 enfants de djihadistes, tous belges, tous orphelins, et des gamins qui aujourd'hui n'ont plus de parents et qui se trouvent dans des camps en Syrie sous contrôle kurde.
C'est un tabou de l'Église, les enfants de prêtres. Le pape François s'oppose, comme ses prédécesseurs, au mariage des prêtres. Mais aujourd'hui, Pierre, l'Église de France tend la main puisqu'elle accepte d'entendre 3 enfants nés de ces liaisons.
Et parmi ces 3 enfants devenus aujourd'hui adultes, bien sûr, il y a Anne-Marie. Elle est le fruit d'une relation entre un curé et une nonne. Et elle préside l'association Les Enfants du Silence.
On reste malgré tout le fruit de la transgression. quand on est au lycée, quand on est au travail, aller dire comme ça, tu sais, je suis fille de curé. Vous allez voir ce que ça fait. C'est des moqueries, c'est des humiliations, c'est le rejet. Nous avons été traités de bâtards, d'enfants de Satan. Moi, j'ai quand même été placée pendant les 3 premières années de ma vie. Mon père, il a vécu l'enfer. Il a subi des pressions terribles à l'époque. Ma mère est sortie des ordres plus facilement, on va dire, avec un évêque qui lui a proposé de l'argent pour qu'on disparaisse, elle et moi, afin de sauver l'honneur de l'Église. On arrive à des situations qui sont terribles.
Voilà donc ce témoignage au micro de Pierre Herbulot.
Il est 12h47, vous écoutez Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et Ryanair, Pierre est de retour à Marseille.
C'est à n'y rien comprendre, puisque la compagnie low cost s'était dit plus jamais. Souvenons-nous, elle s'était retrouvée accusée de travail dissimulé, de salariés sous-payés. Qu'à cela ne tienne, Ryanair revient avec 3 bases, Bordeaux, Toulouse et donc Marseille. Retour sur les terres provençales, mais aux conditions françaises. Nathalie Chevance.
300 millions de dollars d'investissement, 3 avions basés en permanence sur le tarmac marseillais. Retour en fanfare pour Ryanair qui concerne 1 millier d'emplois dont 100 000 de recrutements directs, hôtesses, stewards et ingénieurs. Michael O'Leary n'a jamais caché son appétit pour le marché français et les poursuites pour travail dissimulé, les accusations de certains syndicats pointant les faibles salaires payés par la compagnie, n'entament rien la détermination du patron irlandais disposé à respecter la législation française. La condition pour remporter sa part du gâteau.
À la base de Marseille, nous aurons des contrats français avec un droit du travail français. Nous discutons avec les syndicats français, mais aussi avec les autorités françaises, et nous paierons nos impôts et nos cotisations sociales en France, donc nous respecterons toutes les lois du système français. Nos pilotes gagnent entre 150 et 200 000 euros par an, et notre personnel de cabine gagne entre 30 000 et 40 000 euros par an. Ce sont des emplois bien payés ici à Marseille.
Et l'aéroport de Marseille-Provence se frotte les mains. Ryanair, son 2e client après Air France, lui rapporte 30 millions d'euros par an, 20% de son chiffre d'affaires. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Que se passe-t-il en mer d'Oman? 2 cargos attaqués ce matin. Les équipages des 2 pétroliers ont dû être évacués. Un tanker norvégien a signalé 3 explosions à bord. C'est la marine américaine qui a reçu les appels de détresse.
Il est 12h48. Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, les joueuses tricolores qui ont vraiment du mérite. Et puis des enfants qui apprennent la musique, mais sans lire une seule note. À tout de suite. Il est 12h51 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin. France-Norvège, 2-1, les Françaises sont trop fortes.
Ouais, victoire à Nice, pour ceux qui ont pu suivre le match dans les gradins, c'était un spectacle extraordinaire, en tout cas l'euphorie générale, puisque 10 millions de personnes ont regardé la télé. C'est considérable, Julien Froment. En plus de tout ça, les Bleus nous ont démontré qu'elles savaient gagner dans l'adversité.
Ouais, les Bleus ont montré un visage qu'on lui connaissait moins, celui d'une équipe dure au mal, debout dans la tempête. On savait que la Norvège allait imposer un autre rythme, une autre intensité que la Corée du Sud. Alors tout n'a pas été parfait, mais l'équipe de France a répondu présent. L'une des buteuses de la soirée, Eugénie Le Sommer.
Il faut parfois passer par des moments difficiles pour aller loin dans la compétition. Et aujourd'hui, on apprend encore. Il faut se servir de ça. L'équipe a eu du caractère, a eu du mental pour revenir et c'est ça qu'il faut retenir.
Oui, on retient aussi 2 matchs, 2 victoires. Alors, est-ce que les Bleus sont plus que jamais favorites de cette Coupe du Monde? C'est pas vraiment l'avis de la sélectionneur Corinne Diacre qui a rappelé un petit peu tout le monde à l'ordre.
Non, toujours pas. On est toujours outsider. La difficulté que l'on a rencontrée ce soir, ça se reproduira. Ça se reproduira. Une Coupe du Monde, c'est quelque chose de compliqué. Ce sont des matchs, comme on les a vécus ce soir, difficiles, âpres. Ça se joue sur des détails. Voilà, c'est pas parce qu'on a 2 matchs, 2 victoires qu'on devient favori de la compétition. Absolument pas. Absolument pas.
D'autant plus que la France n'est pas encore officiellement qualifiée pour les 8e de finale. Bon, il faudrait un cataclysme, une large défaite contre le Nigeria et dans le même temps un carton de la Norvège face à la Corée du Sud. Ce qui semble hautement improbable, tant les Bleus maîtrisent, quel que soit le scénario, leur sujet.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe.
Faire de la musique, chanter à plusieurs voix des mélodies complexes sans passer la case solfège. Ah oui, le rêve hein, pour beaucoup d'entre nous sans doute.
Mais voici qu'un groupe de 8 chanteurs anglais, les Voices 8, sillonnent toute l'Europe pour mettre en application cette méthode d'apprentissage. Ils sont allés à la rencontre de collégiens de la région parisienne et vous allez l'entendre, le résultat est bluffant. Thierry Geffrotin.
Équipe 2.
Ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas une équipe de foot, c'est une chorale, un chœur immense, 250 collégiens des Hauts-de-Seine qui se sont mis à la musique il y a quelques mois grâce à une méthode assez révolutionnaire, la méthode Voices 8. Johanna Spiro est la responsable française du projet.
Ils ont vraiment leur méthode qui est très vivante, qui passe vraiment par la gestuelle, la pédagogie collective sur les rythmes. Ils font des body percussions pour ressentir justement la musique à travers le corps. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec les élèves.
Et voici le résultat. Petit échauffement avant de passer à des choses plus sérieuses. Et finalement, la méthode Voices 8, ce ne sont pas que des cours collectifs, c'est aussi un livre et des vidéos mises en ligne sur Internet pour apprendre la musique en s'amusant.
Convaincu ?
Solfège ou pas solfège, telle est la question.
En tout cas, ces collégiens, si vous voulez les voir, ils sont en concert ce soir avec Voices 8, c'est à la scène musicale. Splendide salle de la scène musicale à Boulogne-Billancourt.
Vous revenez dans quelques minutes, Pierre, pour l'essentiel de l'actualité.
Il est 12h54.
Europe 1.
Et vous restez avec nous, bien sûr, car dans quelques minutes, nous allons monter à moto, enfourcher notre cheval et découvrir les innovations françaises. C'est la France qui bouge. À tout de suite.
Et c'est l'heure de faire un point, Raphaël, sur la météo.
Alors j'ai une bonne nouvelle, c'est moins gris, Elena.
Oui.
Mais c'est plus sec aussi cet après-midi, donc ça va mieux, Elena.
Ouais, c'est une journée de transition, on va en profiter. Alors, on a même du ciel bleu, il faut
normalement, il y a un mai qui arrive.
Oui, toujours. Il est pour tout à l'heure, le mai. Ciel bleu sur la façade est ainsi que sur le tiers sud. Et puis plus on remonte vers la Manche, c'est vrai que là, plus le ciel est nuageux avec quelques averses, pas beaucoup. On peut s'attendre quand même à une soirée bien agréable entre le Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, le centre, le bassin parisien, le Champagne, les Ardennes. Autant de régions où on n'avait pas eu le soleil depuis longtemps. Les températures, elles remontent aussi, surtout dans le sud et dans l'est, hein, sous le soleil, avec 23 degrés à Strasbourg et Bordeaux, jusqu'à 31 à Ajaccio. Et puis c'est encore faible pour la saison sur une bonne partie nord-ouest avec 16 seulement à Brest, 18 à Caen et 21 à Paris comme à Angers ou Reims. Ce soir, les orages vont remonter de l'Aquitaine. Il est là, le mai. Vers les Poitou-Charentes, le Limousin, le centre Île-de-France. Alors on les retrouvera sur le nord-est demain matin. Et puis une autre vague orageuse va s'inviter, elle, du midi toulousain jusqu'aux régions du centre et centre-est à partir de vendredi et samedi. Attention, ça pourrait cogner fort avec de grosses averses et localement de la grêle. Ce sera plus calme sur l'ouest. Dimanche, on aura un dégradé nord-ouest-sud-est. Plus on ira vers le sud, plus il y aura du soleil. Et puis les températures, elles vont remonter. Il fera même trop chaud demain en Corse avec un petit coup de sirocco. On ira jusqu'à 40 degrés, des records attendus. Et puis alors là, la bonne nouvelle, la vraie, lundi mardi,
soleil,
mercredi,
l'été arrive, ça y est.
Vous avez
tout dit.
Voilà,
merci, Elena.